Soyez les bienvenus sur Studio Zef à la Maison de Bégon, qui a répondu ce soir présente à l'appel de l'association blésoise Rumi et de l'ONG Syria Charity pour organiser une soirée de soutien aux victimes d'Alep. Nous avons eu envie d'essayer, en toute modestie, de comprendre un peu mieux la situation dramatique que traverse la Syrie et sa population, en invitant autour de ce plateau les acteurs des différentes associations, et nous tenterons également de vous faire entendre quelques témoignages des personnes présentes ce soir, concernées de près ou de loin par le conflit. Pour cela, je suis ravie d'être en compagnie d'Alice, que vous pouvez entendre depuis quelques mois dans sa chronique, pas politique mais presque, intitulée À l'abordage, dans l'émission mensuelle du Vent dans les pages. Et hop, un coup de pub, ça fait pas de mal. Bonsoir Alice, comment tu vas ?
Bonsoir Véro, mais tout va bien.
Bon, il y a du monde hein, ce soir, c'est bien. Hein.
Oui, il y a du monde et ça sent bon. Bon.
Oui, ça sent bon, c'est vrai. Tout d'abord, une brève présentation de la Syrie pour un peu poser le décor, si je puis dire. Pays du Proche-Orient, bordé par la mer Méditerranée, la Syrie est frontalière de la Turquie au nord, de l'Irak à l'ouest, de la Jordanie et d'Israël au sud et du Liban à l'ouest. La capitale est Damas. La Syrie est peuplée à 90% d'Arabes, il y a 9% de Kurdes, 0,8% d'Arméniens. L'islam est la religion majoritaire. 70% des Syriens sont de tradition sunnite, 3% sont chiites, il y a 9% de chrétiens, 3% de druzes et la communauté alaouite qui représente 13% de la population. C'est de cette communauté qu'est issue la famille Assad, qui dirige le pays depuis plus de 40 ans. En mars 2011, des adolescents écrivent sur les murs un slogan scandé dans toutes les rues. Le peuple veut la chute du régime. Ils sont arrêtés par les services de sécurité et torturés. À la suite de cet acte, les manifestations s'étendent dans tout le pays et la Syrie entre dans le mouvement des printemps arabes. Les forces du régime répondent systématiquement en tirant sur la foule, faisant des morts et des blessés. Dans le même temps, des centaines de jeunes activistes et autres civils sont arrêtés et disparaissent dans les prisons du régime. La répression chaque jour plus féroce provoque de nouvelles protestations et demandes de réformes. Le cycle manifestation-répression se poursuit pendant des mois. À la fin de l'année 2011, l'ONU dénombre déjà 5000 morts. Partie de la répression des manifestants réclamant plus de démocratie, le conflit s'est vite complexifié avec l'entrée en scène d'autres acteurs comme les islamistes de Daesh et les Kurdes qui se battent pour l'indépendance du Kurdistan au nord-est du pays. Ce cauchemar syrien dure depuis maintenant 5 ans. Alors que faire ? À quoi peut servir un événement comme cette soirée ? Qu'en est-il de la situation des réfugiés ? Que se passe-t-il aujourd'hui en Syrie ? Avant de tenter d'avoir des éléments de réponse auprès de nos invités, nous accueillons tout d'abord la présidente de la Maison de Bégon, Christelle Leclerc, qui nous a rejoint sur le plateau de Studio Joseph, et le directeur, le tout nouveau directeur de la Maison de Bégon, Monsieur Chokri Bougatas. Bonsoir, messieurs, dames.
Bonsoir, Joseph. Bonsoir, mesdames.
Bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir, ça va ?
Bah écoutez, pas mal, il y a plein de monde. Apparemment, la soirée promet d'être plutôt une belle soirée.
Oui, j'ai bien l'impression, hein, vraiment. Alors, en fait, je vais commencer tout simplement par la première question. Comment elle est née, cette soirée ? C'est parti comment ?
Alors, je vais commencer parce qu'en fait, Chokri n'était pas tout à fait arrivé dans nos murs lorsque... Il était déjà recruté, mais pas tout à fait arrivé dans nos murs lorsque les choses ont démarré. Au moment de la fin décembre, mi-décembre, il y a eu les événements d'Alep qui ont commencé à retentir un peu plus au moment du siège. C'est à ce moment-là qu'on a eu quand même pas mal d'informations très alarmantes sur les télévisions, les journaux, etc. C'est vrai qu'on entendait parler de la Syrie déjà quand même depuis quelques années et ça faisait régulièrement partie des choses qu'on dénonçait, mais là ça avait pris une tournure un peu plus violente. Et les associations que sont Rumi, le mouvement franco-imazirène de Blois, Syria Charity et pas mal d'autres associations sont venues, celles qui font partie entre autres du collectif 6e Rencontre, qui sont les associations avec lesquelles on travaille déjà depuis quelques temps au niveau des quartiers, sont venues toquer à notre porte en disant bah voilà, là c'est plus supportable, il y a des actions qui se montent un peu dans toute la France, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec vous ? Voilà, et on a organisé une réunion, c'était pendant les vacances scolaires, donc un peu compliqué parce que les gens assez
parce
absents.
Que vacances.
Voilà, peu de personnel chez nous pour coordonner, pas mal de nos administrateurs absents aussi. Et puis les choses se sont lancées avec une première réunion le lundi qui devait être autour du 18-19 par là. Ensuite a été monté un mouvement de rassemblement pour le jeudi 22 Et le jeudi 22, on s'est dit, on se revoit le 4 janvier. Entre-temps, un des salariés de la Maison de Bégon, qui est Pierre, responsable de l'action culturelle, et était encore au travail. Lui, il lui restait quelques jours de travail. On a réussi à monter une forme de budget, une forme de projet. Et puis, on a donné la date à toutes les personnes qui pouvaient être intéressées de se retrouver le 4 janvier. On est parti quelques jours en vacances. Et le 4 janvier, on s'est vu. Entre-temps, on avait retravaillé sur quels artistes pourraient venir. Parce que nous, Maison de Bégon, qu'est-ce qu'on sait faire ? Bah, c'est faire venir des artistes pour faire venir des gens. Et puis, bah, voilà, les choses ont progressé. De leur côté, les associations avaient réfléchi à comment faire une préparation alimentaire pour qu'il y ait un buffet. Et puis, on a commencé aussi à travailler sur le volet communication pour qu'il y ait une pré-affiche de prête, pour que le 4, on puisse la présenter. Et la choquerie est arrivée du 3. Donc, le 4, directement les mains dans le cambouis.
Bienvenue à la Maison de Bégon.
Oui. L'idée, c'était, c'est comme ça, la Maison de Bégon. On toque à notre porte, on est réactif et on y va. Donc,
Et il est resté, c'est bien, parce qu'il aurait pu repartir. Non, ça vous a pas fait peur.
Partir aussi vite, ça aurait été une gageure quand même. Ouais.
Donc voilà, comment ça s'est fait. Et puis après, sur la semaine du 4 jusqu'à la fin de la semaine, donc du mercredi à la fin de la semaine, on a lancé officiellement la communication qui avait été validée le 4. Et puis, bah voilà, vous êtes là,
et
nous sommes
jours,
là.
Et 9 jours pour monter une telle soirée.
C'est un peu ça, avec des gens qui ont été contactés pour donner des aliments, en l'occurrence les commerçants du marché, des gens qui ont donné aussi dans les supermarchés locaux environnants, parce que des gens de chez nous sont allés les voir pour demander à nous donner des ingrédients. Enfin, voilà.
On peut dire que, enfin, comme dit la formule consacrée, il y a eu un élan de solidarité quand même, parce que quand vous avez demandé, quand vous avez sollicité un petit peu les gens, ils ont tous répondu présent.
Oui,
aussi.
Puis chacune de ces associations avait des bénévoles, comme nous on en a aussi, mais chacune de ces associations avait des bénévoles prêts à vraiment à être là à disposition pour vraiment soutenir, parce qu'on sait que dans ces moments-là, c'est quand même les forces vives qui comptent, et il fallait des gens pour préparer les repas, pour distribuer tous les tracts sur les marchés en disant qu'il y avait une soirée, faire du relais sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà. Donc les gens ont vraiment pris part entièrement à tout ça.
Et ce soir, il y a à peu près combien de bénévoles là, d'engagés, vous savez ?
Au moins une cinquantaine.
Au moins une cinquantaine, oui, toutes associations confondues.
Oui. Au moins une cinquantaine, c'est un minimum. Hein. Et je ne compte pas la Maison de Bégon.
Oui, oui, parce que je crois que c'est à noter que les salariés de Bégon ce soir sont bénévoles, sont sur le terrain.
Tout le monde est bénévole ce soir, y compris les salariés de Bégon. C'est aussi un acte, un élan de générosité de leur part. Et quand on leur a demandé à Christelle de s'impliquer, de s'investir bénévolement ce soir, il y a eu tout de suite une réponse positive, donc on ne s'est même pas posé la question.
Ça a été spontané. Pour continuer un petit peu sur ce que tu dis, Chokri, à qui sont destinés les bénéfices ? Comment ça se gère là, les bénéfices de cette soirée ?
A priori, c'est au profit de l'association Charity, Syria Charity. Donc dès le départ, les choses étaient claires. Hein. C'était bien cette association qui allait être l'organisme collecteur et distributeur de ces fonds. Nous, en aucune façon, nous n'avions de prétention à aller en Syrie pour effectivement distribuer l'argent. Donc c'était bien dès le départ autour de cette association qui fait un travail formidable. Nous l'avons vu tout à l'heure d'ailleurs. En Syrie, en prenant des risques démentiels d'ailleurs, hein, de nombreux bénévoles aussi de cette association vont en Syrie pour secourir les populations au détriment de leur vie bien souvent. Donc c'est vraiment spontanément qu'on a décidé de quasiment au pied levé de réagir et d'apporter notre soutien à ce collectif parce que la cause est bonne, parce que la cause est une cause solidaire et parce qu'elle correspond aussi à nos valeurs. Donc c'était tout à fait naturel de réagir vite et de réagir bien. Et ce soir, on est content.
Et je me permets juste de rebondir. Vraisemblablement, les associations vous ont contacté naturellement.
Ce sont des associations avec lesquelles on travaille parce qu'on a un travail de fond qui se fait à l'année avec la proximité de notre implantation et des gens dans les quartiers. Et puis, il y a aussi une soirée qui avait déjà été faite l'année dernière de soutien aux réfugiés. Avec comment ça s'appelle on avait donné l'argent au Secours Populaire. Voilà.
D'accord.
Donc les associations savaient qu'on pouvait éventuellement être prêt à porter
D'accord.
un projet tel que
D'accord.
celui-là. Et c'est vrai que les associations qu'on a citées sont des associations avec lesquelles on a une habitude de fonctionnement quand même et une confiance qui est posée. Quoi.
Ouais. Est-ce que c'est pas, du coup, est-ce qu'on ne retrouve pas là le cœur de la Maison de Bégon, c'est-à-dire certes programmation culturelle, mais échange culturel, solidarité.
côté...
On reste centre social, c'est-à-dire voilà. à ouverture envers le public, envers la société et envers les gens de notre environnement et de notre territoire, mais avec l'outil culturel pour faire ce lien.
Et enfin, c'est là, un peu notre définition. C'est là votre plus-value ce soir, c'est d'avoir pu faire cette programmation culturelle en plus.
On s'est posé la question de qu'est-ce qu'on peut faire. Et nous, notre mission, c'est effectivement de fédérer des gens autour d'un projet. Mais qu'est-ce qu'on sait faire, nous, techniquement? C'est mettre un plateau en route avec des artistes dessus, des techniciens qui viennent donner le coup de main, d'ouvrir nos portes et de coordonner, d'organiser tout ça. Mais avec un outil culturel, on n'aurait pas pu... on ne sait même pas ce qu'on aurait pu faire d'autre que de proposer quelque chose avec un lien avec des artistes, quoi. Puisque c'est un peu notre façon de travailler et de faire venir les gens ici, de faire que les gens se rencontrent via l'outil culturel.
D'accord. Non, j'avais juste une petite dernière question. Je vois que l'heure tourne, que M. Robillard est arrivé et que voilà. Vous avez une petite idée du nombre de personnes qui sont entrées ce soir ?
Eh ben, moi non.
Oui, 250, entre 250 et 300.
D'accord.
Il y a à peu près une heure, il y avait 220 tickets vendus. Donc je pense qu'on doit être entre 250 et 300 à l'heure actuelle.
Sachant qu'il y a aussi des gens qui ont fait des dons sans pour autant être présents ce soir, qui ont déposé des chèques, qui sont venus donner de l'argent, mais qui ne sont pas nécessairement restés, qui n'ont pas pris des tickets d'entrée. Il y a aussi D'accord. ça. Donc voilà.
Et je ne compte pas les bénévoles.
Oui.
Parce qu'il faut savoir aussi qu'au niveau des administrateurs et de certains bénévoles, ils ont payé leur entrée, même s'ils sont en action bénévole. Voilà.
D'accord.
En termes de soutien.
Merci beaucoup de votre participation et je vous laisse continuer la soirée. Très bonne soirée à vous, à tout à l'heure.
Merci, à plus tard, bonne soirée.
Merci.
Au revoir, merci à Zefet d'être là aussi.
De retour sur le plateau de Studio Zef, toujours à cette soirée de soutien aux victimes de la ville d'Alep en Syrie à la maison de Bégon. Autour de la table, nous avons comme invité Monsieur Amani de Syria Charity et le docteur Chami, intervenant en Syrie avec Syria Charity. Bonsoir messieurs.
Bonsoir. Bonsoir.
Merci d'être là avec nous. Alice, je te passe le relais pour poser quelques questions.
Voilà, et puis peut-être démarrer par le début. Monsieur Amami, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu Syria Charity ? Comment est née cette association ?
Donc cette association est née pour apporter de l'aide aux victimes en Syrie en 2011, juste avec le soulèvement pacifique du peuple syrien. Donc ce soulèvement pacifique qui a duré 7 mois, a été réprimé dans le sang par, bien sûr, les forces de sécurité du régime syrien.
Est-ce qu'on peut dire que c'était un printemps arabe, un peu comme ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte ?
Justement, c'est dans la continuité du printemps arabe. Le peuple syrien a réclamé tout simplement le respect des droits de l'homme, la démocratie. Au départ, il n'a jamais réclamé le départ du régime. Il a réclamé tout simplement des réformes, et plus de liberté, plus de dignité, plus de respect. Voilà. Et donc cette demande a été bien sûr rejetée par le régime, qui n'a jamais connu que l'utilisation de la force face à des réclamations de ce genre.
C'était un mouvement global ou c'était dans les villes essentiellement ? Est-ce que c'est un mouvement très populaire ou un petit peu circonscrit à une élite enfin ?
Si vous voulez, le début de ce soulèvement, on appelle toujours la révolution syrienne, c'est la révolution des enfants. Parce que cette révolution ou ce soulèvement a commencé dans la ville de Deraa. Et c'est grâce, en quelque sorte, à des enfants qui ont, dans la continuité du printemps arabe, qui ont marqué sur les murs de leur école « Ton tour viendra bientôt, président ». Et donc ces enfants ont été arrêtés par le service de sécurité, ont été maltraités et torturés, ce qui a provoqué des manifestations dans la ville de Deraa, et d'où est partie l'étincelle donc dans toutes les villes de Syrie. Mm-hmm. Et c'est ça le déclenchement de la révolution syrienne. Cette histoire est très connue. D'ailleurs, elle est rapportée par la journaliste Soufia Amara dans son ouvrage « Paris en 2015 »,« Infiltré dans l'enfer syrien ». C'est un récit authentifié par beaucoup de journalistes.
D'accord. Donc, cette remise en contexte faite, donc si on en revient à Syria Charity, qu'est-ce qui se passe ? Je crois que c'est une association qui est née du côté d'Angers, si mes informations sont bonnes. Comment ça démarre, cette aventure ?
Donc, face à cette situation humanitaire, si vous voulez, et médicale catastrophique, les médecins franco-syriens, dont aussi Dr Chami, l'un des fondateurs de cette association, ont décidé d'apporter de l'aide aux victimes en Syrie. Et d'où la naissance de l'association Syria Charity, où le domaine médical occupe une grande partie de nos activités.
D'accord, c'est les principales missions.
C'est les principales missions, et ce domaine médical, je le laisse à mon collègue Dr Chami le développer. Je vais plutôt vous parler des autres domaines. Mm-hmm. Donc les domaines d'intervention au niveau de l'aide alimentaire. Donc notre association distribue des paniers alimentaires d'une manière régulière dans 27 villes de Syrie, distribue du lait pour bébés également. Et ça, c'est le volet alimentaire. Donc apporter de l'aide alimentaire, apporter également des tentes pour les réfugiés quand il y a des bombardements, pour les déplacer, apporter des tentes, des couvertures pour l'hiver. Et voilà, c'est le domaine alimentaire, si vous voulez. Ensuite, il y a le volet également parrainage des orphelins. Mm-hmm. Notre association s'occupe des orphelins.
Oui, on a vu des petits flyers sur les tables, en effet.
Tout à fait. Notre association maintenant parraine à l'intérieur de la Syrie, et toujours les actions, nous travaillons et nous ouvrons auprès des victimes, et notre intervention est centrée à l'intérieur, toujours à l'intérieur de la Syrie. Donc l'association gère 5000 familles d'orphelins, 5000 familles, plus de 5000 actuellement. Donc nous les aidons, nous leur apporterons des aides au niveau alimentaire, au niveau de l'éducation également. Nous avons des projets de développement. L'association gère deux écoles primaires, l'une dans la ville d'Alep, dans la banlieue d'Alep, et l'autre dans la Ghouta, dans la banlieue de Damas. ces deux élèves, ces deux écoles comptent 600 élèves.
D'accord. Donc, ça veut dire des écoles qui n'ont plus d'enseignants, où il faut tout, enfin qui sont encore debout, où il n'y a plus de bâtiments, il n'y a plus rien, et vous agissez dans l'urgence comme on pourrait agir dans un camp de réfugiés. C'est
de pseudo-écoles.
D'accord.
Créées. C'est pas des écoles aménagées.
D'accord.
C'est des écoles créées. Donc ils prennent un local. On embauche donc des enseignants, on leur donne un salaire, tout ça.
Et comment vous faites pour intervenir ? C'est-à-dire que le régime vous laisse intervenir ? Comment ça se passe pour vous n'avez pas eu à entrer dans le pays, peut-être parce que vous avez fait jouer vos contacts qui étaient déjà ? Comment ça s'est passé ?
Je voulais dire que nous sommes à l'extérieur de Syrie, nous sommes des bénévoles, mais toujours en contact avec notre équipe d'intérieur. Syria Charity a 250 membres à l'intérieur de la Syrie, donc on intervient auprès de nos membres qui agissent sur l'intérieur. Et puis, dans le domaine médical, nos médecins rentrent en Syrie, comme Dr Chami, mais d'une manière clandestine.
D'accord, il n'y a rien d'officiel. Oui,
mais une petite précision, parce que vous avez demandé si c'est dans les zones du régime.
Non,
la plupart des écoles, des hôpitaux, des dispensaires, tout ça, dans les zones, ce qu'on appelle libérées.
D'accord,
les zones. Dans les mains de l'opposition.
D'accord.
N'empêche que même dans les zones un peu sous le contrôle du régime, on a aussi quelques agents qui travaillent secrètement.
D'accord. Et oui, il n'y a rien
d'officiel.
Qui apporte
de l'aide. Ah oui, mais de façon extrêmement discrète.
D'accord, oui. D'accord. Et tous les dons dont vous parliez, les dons alimentaires, c'est grâce aux dons qu'on vous fait en France ?
Tout à fait.
Alors, je ne sais pas, c'est une association qui est présente uniquement en France ou du coup qui a une résonance internationale ?
L'association Syria Charity, elle est en France. L'association Syria Charity a été créée en France. Vous avez parlé de la ville d'Angers, effectivement. Maintenant, nous avons le siège à Paris. Nous avons un grand entrepôt à Paris aussi pour stocker surtout les matériels médicaux, les produits alimentaires, le lait pour bébé. Et nous complétons ça par des achats sur place. C'est-à-dire, comme étant donné la distance, pour certains matériels, nous achetons ça en Turquie ou bien en Syrie sur place.
Retour sur la soirée de soutien aux victimes d'Alep à la maison de Bégon, sur Studio Zef.
Donc Claude Chami, vous êtes chirurgien à Romorantin. Vous êtes rendu plusieurs fois en Syrie. Vous êtes membre de Syria Charity.
Aussi.
Voilà. Comment ça se passe ? Comment êtes-vous allé là-bas, surtout ?
Écoutez, depuis le soulèvement donc, populaire en Syrie en 2011, en mars 2011, au début que c'était quelque chose de très pacifique, donc on attendait, on espérait. Au bout de 7-8 mois, le régime a passé donc, à des actes de répression cinglante, d'une violence inouïe. En voyant les images des blessés, de la torture, des morts, tout ça, j'avais qu'une envie, c'est d'aller sur place, aider mon peuple, apporter mon savoir-faire médical et puis partager avec eux un peu de leur souffrance. Donc j'étais extrêmement, si vous voulez, excité pour y aller. J'essayais à travers des associations internationales comme Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde, d'y aller. Donc il n'y avait rien d'installé à l'époque. J'ai décidé de partir avec mes propres moyens la première fois.
Donc vous êtes rendu seul
Tout à fait. Donc on est parti avec une petite équipe. Hein. J'ai un ami qui partage les mêmes idées que moi, orthopédiste. Moi, je suis chirurgien généraliste, chirurgie générale. Et un autre de mes proches qui est urgentiste. Donc on est parti à trois à l'aventure. On est passé par la Turquie pour rentrer en Syrie de façon clandestine par rapport au régime. Mais on a passé donc le point de contrôle de l'armée libre normalement, et là je suis allé comme ça à la recherche d'un hôpital où je peux apporter donc de l'aide.
Vous aviez des contacts sur place pour assurer ce relais ou...
Alors c'est lui qui était avec moi, l'orthopédiste. Il est originaire d'Alep, pardon. Donc il connaît quelqu'un.
D'accord.
Mais moi, même en tant que Syrien, je suis jamais allé visiter Alep.
D'accord.
Jamais. Je suis originaire de Damas. Donc je ne connaissais pas du tout Alep, mais j'ai plein d'amis d'Alep. Donc c'est lui qui est parti avec moi, il avait un contact, un seul. Donc on est allé sur place, au début, bon, on s'est lancé comme ça, on a demandé où est-ce qu'il y a... Le guide était à Alep, et nous on était encore dans la banlieue
d'Alep, hein,
dans la ville de Azaz. On a demandé à quelqu'un de nous amener à l'hôpital de Azaz. On est allé dans un hôpital qui était l'hôpital public, mais qui était complètement squatté par l'armée, hors service, tout ça. Donc on est allé, on a vu quelques postes de dialyse qui fonctionnaient encore dans des conditions invraisemblables. Et l'infirmière là-bas qui m'a dit qu'il faisait les dialyses, qui avait en temps normal 70 dialysés, qu'actuellement il ne reste que 17. Et la deuxième fois où je suis allé, si vous voulez, pour voir cet hôpital, il n'y avait plus rien.
D'accord.
Il n'y avait plus de malades, plus d'hôpital. J'ai dit à mon ami, moi j'ai envie d'aller à Alep, même là où il y a vraiment les bombardements, les blessés, tout ça. Donc on a réussi par un guide qui nous a frayé un chemin extrêmement dangereux parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, Alep ou les banlieues d'Alep, ou même pratiquement toute la Syrie, c'est comme la peau de léopard. Il y a des zones de contrôle sous le régime, il y a des zones avec les rebelles, et il ne faut surtout pas se tromper.
Entre les zones,
zone.
D'accord. Voilà, ça, vous jouez à essayer de relier les zones tenues par la rébellion,
donc
mais c'est votre...
J'ai mis tous mes espoirs sur le guide.
D'accord. C'est une grande confiance, du coup, qu'il faut faire à la personne qui vous guide.
Tout à fait. Donc, on est arrivé à l'intérieur, exactement. Donc, il m'a fait visiter un premier hôpital où il y avait la moitié de l'hôpital détruite. Donc, il restait quelques étages qui fonctionnaient. J'avoue que quand je suis rentré... j'ai pas pu, si vous voulez, je lui ai dit non, je peux pas travailler dans cet hôpital. Il faisait sombre, il n'y a pas d'électricité, c'est sale, il y a du sang partout, c'est le désordre total.
C'est la guerre.
Le seul bloc ou la salle d'intervention qui se trouve pas à l'hôpital. Pour peur d'être bombardé.
Oui, mais c'est ça, parce que c'est une
donc
réalité.
C'est de l'autre côté de la rue, donc il faut aller. Je suis allé voir la salle
d'opération.
C'est une petite salle, éclairage catastrophique, petite table, des conditions d'hygiène invraisemblables. Je lui ai dit non, je ne peux pas. Surtout quand vous venez, vous avez cette. Si vous voulez, contraste dans l'hôpital.
Entre les conditions en France et,
vous êtes
là-bas,
paralysé,
qui plus est en zone de guerre.
Mais petit à petit, vous vous y habituez, comme les Syriens ont fait. Pareil,
oui.
Il m'a amené dans un autre hôpital où j'ai trouvé que c'était tout à fait.
Il y avait encore des infrastructures correctes.
Ça ressemblait un peu à un hôpital. Je lui ai dit, je pose mes valises. Sauf que, si vous voulez, les bombardements n'arrêtaient pas.
C'est ça, comment on fait pour travailler sous les bombardements ?
Eh bien, tout à fait. Donc, vous craignez tout. Vous risquez soit à mourir sous les décombres, soit blessé, soit que le régime fait une contre-attaque et puis qu'il occupe la zone, donc il arrête tout le monde.
D'accord.
Donc, le risque était énorme.
On travaille la peur au ventre.
Fois que je revenais d'une mission en Syrie, je me suis dit, t'es fou ? Comment t'as pu aller vraiment
là-bas.
Mais quand vous êtes sur place, et ben vous voyez que des milliers de gens comme vous...
C'est la normalité.
Vous dites, je fais partie de ce monde.
Ouais.
Pourquoi me montrer plus heureux,
plus tatilleux.
Tout à fait. Donc, mais à chaque fois, vraiment, la peur au ventre. Et la vraie peur, c'est de tomber entre les mains du régime.
Entre les mains du régime.
Parce qu'avant de mourir, ils vous torturent.
D'accord.
Enfin, voilà, vous goûtez de la torture jusqu'à la mort, c'est invraisemblable. Donc c'était ça ma crainte principale. Donc c'est pour ça qu'on était toujours, si vous voulez, et puis il faisait froid, il n'y a pas un moyen de se réchauffer, on dormait toujours habillé, les passeports dans la poche, tout ça. Parce que
prêt à partir.
Les chaussures aux pieds et tout.
C'est des missions de combien de temps quand vous y allez ?
Souvent 3 semaines.
3 semaines, d'accord.
3 semaines. Une fois, j'ai réussi à aller avec Médecins Sans Frontières où l'équipement est beaucoup plus conséquent.
Parce qu'ils amènent leur équipement, du coup, ils peuvent le déplacer.
Et c'est eux qui gèrent sur le plan...
C'est des hôpitaux mobiles, un peu, en fait ?
Non, ils prennent un bâtiment qui soit le plus discret possible.
D'accord. Même Médecins Sans Frontières, de toute façon, ils se sont fait bombarder,
mais maintenant,
on le sait.
Malheureusement, je vous raconte la fin, donc justement... Cet hôpital, ils l'ont spécialisé un peu dans les grands brûlés, parce qu'il n'y a aucune structure pour prendre en charge les brûlés. Donc je suis allé là-bas pour une mission d'un mois. J'étais le seul chirurgien à tout faire. Hein. Il n'y a pas que les brûlés, mais les brûlés, c'était principalement, tout le monde nous envoyait les brûlés. C'était surtout des enfants et des femmes. Donc je faisais au moins 7 brûlés par jour. Ça veut dire enlever la peau morte, greffer, faire les pansements, et puis voyez les complications, les cicatrices, comme je disais tout à l'heure. J'ai vu de près les gueules cassées, qu'on dit, parce que les enfants et les femmes qui sont brûlés après, ils cicatrisent, ils ont plein de brides, de déformations, voilà, c'est affreux. Donc moralement, je pouvais plus. Et le problème, c'est que au bout de 3 semaines, la ville, c'était Al-Bab, s'appelait Al-Bab, qui est dans l'est d'Alep. Daesh a pris le contrôle de cette ville.
D'accord.
En pleine nuit.
D'accord.
Donc le chef de mission nous a dit qu'il faut absolument qu'on quitte.
Parce qu'entre le régime et Daesh, voilà, il n'y a pas de. Enfin, l'un l'autre, le risque est le même.
Oui, voilà, tout à fait. Et puis bon, moi je les connais, les radicalistes. Moi je tombe entre leurs mains. Pas barbu, Claude Chami, nationalité française, machin, c'est l'exécution. Oui. Hein. Tu es espion, de compagnie, sans juger, sans interroger. Enfin, c'est, voilà. Le régime Daesh, c'est.
Même combat. Ouais.
Tout à fait. Donc, chef de mission nous a ordonné de partir très tôt le matin, à 5h, on est parti. On a franchi le premier barrage de Daesh, Dieu merci. Et puis voilà, ça c'était la dernière fois. Et puis malheureusement, on a tout laissé derrière nous.
D'accord.
L'hôpital, le matériel, les gens, les patients. C'était. J'ai pas pu me remettre. Quand je suis rentré en France, j'avoue que j'ai mis un mois pour me remettre dans une.
Dans une vie normale.
Une vie normale, une pensée normale aussi. Parce que j'étais comme perdu ou désorienté, désabusé.
Ça veut dire que sur place, les Syriens maintenant sont laissés à eux-mêmes parce que plus de médecins,
pas d'hôpitaux. Déjà, oui, tout à fait.
Alors, ils vivent comment, les Syriens
Je me pose aussi la question, parce que là, ça fait presque 2 ans que je n'ai pas pu y aller. Quand je vois les images, je dis, mon Dieu, comment ils arrivent à vivre? Comment, nous, à l'hôpital de Romorantin, j'ai travaillé dans d'autres hôpitaux, mais à l'hôpital de Romorantin, vous avez un accident de la route, si vous avez 2 ou 3 blessés, vous êtes complètement désorienté. Non, mais ça désorganise énormément. Oui. Quand vous voyez par dizaines, et que ce n'est pas des petites blessures,
bien sûr.
C'est des lésions extrêmement graves, les fractures ouvertes, les plaies de l'abdomen, thorax, les plaies de visage, les brûlures. Je me demande toujours comment ils arrivent à faire. Bon, quand j'ai vécu sur place, je vous dis, au début, j'étais paralysé. Je ne savais pas comment agir, par où commencer. Parce que ça, c'est un art aussi, faire le tri. Quand j'ai fait un stage avec les militaires français pour savoir comment gérer.
Avant de partir
Oui, avant de partir. Ça a duré 15 jours. J'ai appris plein de choses sur 2 semaines. Comment déjà faire le tri? Ça veut dire, celui-là est condamné à mort, je le laisse.
Ah, vous faites un déchirement. Ouais.
Voilà, avec un déchirement. Parce que vous savez que
sauver
vous
ne
pouvez
vie.
Pas le sauver. Vous savez que vous avez une salle opératoire, par exemple. Et vous avez quelqu'un qui a le ventre ouvert et un autre qui a la jambe cassée et qui est en train de saigner. Je sais que la jambe cassée qui saigne, je peux faire l'hémostase et l'arrêter de sauver tout de suite. Et je sais que l'autre, si je le prends en charge, il va mettre 4 heures, l'autre, il risque de mourir. Donc, il faut faire un choix.
Renoncer, choisir à renoncer.
Et ça, le pire des choses.
Ça doit être un crève-cœur.
Et c'est tous les jours comme ça, tous les jours. Vous devriez faire un choix et soigner. Vous ne pouvez pas soigner tout le monde, c'est impossible. Donc vous faites un tri. Vous faites un tri avec une souffrance.
Et vous disiez que vous n'avez pas pu retourner depuis 2015 parce que la frontière avec la Turquie est fermée désormais. C'est plus possible. C'est plus possible. Jacques, vous êtes très ému.
Oui, parce qu'on a vécu deux choses qui sont magnifiques.
Merci de témoigner. Merci beaucoup et bravo.
stand between time. Somebody show me a place I can go where love's around. Trip to the ocean, I just need to get far.
Retour sur la soirée de soutien aux victimes d'Alep à la Maison de Bégon, sur Studio Zef.
Alors Fatima, donc vous êtes membre de l'association Chrétiens et Musulmans, Dilek de l'association Rumi. Vous pouvez nous expliquer comment vous êtes retrouvée ici ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Donc je peux Dilek. Dire qu'un jour j'ai eu un appel d'une amie. En voyant toutes ces images à la télé... dans la ville de Syrie, Alep. Elle a été très touchée. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Dis-moi, Abla, on ne va pas laisser passer ces choses-là. J'ai trop mal au cœur, il faut faire quelque chose. Donc, on a eu l'idée d'appeler la Maison Bégon parce qu'on avait fait des actions auparavant avec la Maison Bégon pour des opérations cataractes. Donc, la Maison Bégon a répondu à notre appel. J'ai contacté d'autres associations, d'autres bénévoles, et ils étaient aussi partants pour faire un repas ou pour faire une action en général pour la Syrie. Les enfants, les familles qui sont là-bas, qui vivent une vie très, très, très touchante pour nous en regardant les images.
D'accord. Et vous êtes des les associations que vous avez contactées, vous vous connaissiez ? Vous avez fait marcher les contacts ?
Non, je les connaissais déjà, des amis, vu que nous faisons partie ici de 6e rencontre à la Maison Bégon.
Qui est ? Vous pouvez nous rappeler ce que c'est, 6e rencontre ?
6e rencontre, on est plusieurs associations, on fait des actions ensemble, c'est discuter autour de table avec différents sujets. Donc la dernière fois, c'était au mois de février, on a fait une soirée, un peu comme ce soir. Et voilà, donc on a présenté un peu chacun sa culture et
d'accord.
Voilà, on a fait des... Voilà.
Le but, c'est de faire se rencontrer les cultures lors de rencontres à la Maison de Bégon, c'est ça ? Donc,
voilà, d'accord. C'est le lieu où on peut venir.
D'accord. Et donc Fatima, de Chrétiens et Musulmans, c'est Dilek qui vous a contacté ? Comment
oui,
ça s'est passé ?
C'est vrai que je crois que le choc des images et tout ça, je pense qu'on en avait assez tous en même temps à peu près. Je pense que, et avec les fêtes qui approchaient, on se disait comment on peut faire, nous, la fête de Noël, par exemple, même si nous sommes musulmans, on vit en France et dès qu'on est dans cet élan de la fête, de la joie, et on voit des images qui sont quand même
terribles.
On voit des enfants qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas d'abri, qui n'ont pas de parents. Et donc, comment nous, on peut... Et donc, c'est vrai que quand Dilek et son association a fait... Voilà, c'était quelque chose qui attendait juste un déclenchement.
Il fallait juste presser le bouton.
Exactement. Et ça s'est fait vraiment spontanément, rapidement. Les gens, ils sont venus. Donc, on a fait une première réunion.
Ça a été très, très rapide, je crois.
La première réunion, tout le monde est venu. Donc, nous étions tous présents pour organiser d'abord... une manifestation.
Et c'était quand ? C'était en décembre ou c'était en janvier ?
Non,
c'était
en décembre. Pendant les vacances.
D'accord.
Donc, juste avant les vacances scolaires.
Donc il y a quoi ? De 15 jours, 3 semaines,
voilà,
pas plus ?
Voilà, donc on a fait donc cette petite manifestation qui était symbolique surtout. Le préfet s'est joint à nous, le maire. On a dit ce qu'on avait à dire avec les associations, Amnesty International et tout ça. Donc c'était quand même... Et donc on a dit on va faire un repas pour soutenir, pour aider un petit peu le peuple syrien. Mais surtout, il faut continuer, il faut que ça s'arrête.
Oui.
Parce que je pense qu'on ne peut pas continuer à faire des pansements aux gens. On ne peut pas continuer à leur donner à manger et après les bombarder. Donc la solution, ça serait qu'on continue effectivement de les soutenir parce qu'ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin vraiment, mais il faut surtout que ça s'arrête.
Et comment, d'après vous, comment agir? Est-ce que vous pensez que la société civile a un poids, un rôle à jouer pour...
Nous sommes les citoyens, nous sommes des êtres sensibles, des êtres sensés. Et il faut qu'on appelle notre conscience et notre solidarité. Il faut qu'on s'unisse et on doit dire à nos dirigeants qu'il faut faire quelque chose.
Et quand on voit ce soir comme ça réunit le nombre de personnes, le flux, c'est assez encourageant de voir que votre action, en effet, les citoyens répondent, les citoyens sont touchés et se mobilisent.
Alors les citoyens répondent, mais il faut que ça continue. C'est le début.
Oui.
C'est le début. Je pense que c'est pas très signifiant vis-à-vis de ceux qui souffrent vraiment, mais il faut que boule de neige se fasse. Il faut que ça continue. Ça c'est un premier pas qui est grand, certes, parce qu'il s'est fait très rapidement avec une solidarité, avec une participation des commerçants, de tous les habitants blésois, voilà. et de la couronne blésoise. Et ça, c'est vraiment admirable parce que
justement, j'allais vous demander de nous expliquer un peu concrètement. Donc, il y a eu cette manifestation d'Amblois au mois de décembre. Après, vous avez embrayé début janvier en disant « Ok, on organise cette soirée. » Et alors, qu'est-ce qui se passe après concrètement? Parce que là, quand on voit le buffet, il est juste à côté de nous et on en a plein les narines et on a mangé, mais c'était frustrant parce que c'était trop peu tellement c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à un buffet de cette qualité avec autant de bénévoles mobilisés? Je crois que vous avez fait un couscous vous-même, vous avez cuisiné. Expliquez-nous voilà, comment la logistique s'est mise en place.
Bah, le fait d'être là dès la première fois, en fait, déjà, on va chacun aimer son idée, son enthousiasme de participer, son élan d'énergie, de contribuer. Et donc, on a dit oui, d'accord, on va faire une manifestation. Après Dilek, c'est vrai qu'elle a soulevé qu'il fallait faire un repas et donc tout le monde était partant. On s'est réunis le 4 janvier pour effectivement définir on fait quoi et comment.
Sachant
et tout
qu'on
ça.
Est le 13, donc ouais, à oui, peu non, près mais, oui, une oui. semaine avant. Donc
et
chapeau.
En fait, la Maison Bégon, la plupart des habitants de Blois connaissent la Maison Bégon. C'est comme notre seconde maison. Et moi-même, je suis venue avant-hier pour voir qu'est-ce que je peux faire et tout ça. Et puis finalement, j'ai pris plus que ce que je pensais pouvoir faire. Et j'ai fait un couscous pour 50 personnes, des desserts et tout ça. Mais avec vraiment de l'aide, mais vraiment concrète des habitants, des gens qui travaillent aussi à la Maison Bégon. On les remercie vraiment. Ils ont vraiment contribué à l'organisation, à la disponibilité. Et vraiment, on a trouvé
une
équipe formidable.
Et sur le repas, justement, vous êtes combien de personnes à avoir cuisiné? Vous avez une petite idée?
Quand Dilek. On s'est réunis le 4 janvier, on a un peu mis les idées. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme plat?
Oui.
Et qui pourrait faire? Pour ma part, j'ai dit pour ma communauté turque, j'ai parlé au nom de mes amis de ce qu'on pouvait faire. Et j'ai au même temps contacté mes amis maghrébines que je sentais qu'ils seraient prêts pour faire du couscous, un plat de leur pays. Et quand je les contactais, elles étaient contentes et elles étaient ravies. Tous ces gens qu'ils ont cuisiné, elles ont fait bénévolement. Les ingrédients, la plupart, elles ont elles-mêmes financé. Et d'autre part, c'était des commerçants.
Les commerçants que vous avez sollicités
pour de la viande, un commerçant, Monsieur Ibrahim, c'est ça. Mon amie Fatima a contacté. Moi, j'ai contacté commerçant Wafa. Les commerçants, différents commerçants ont été contactés par la Maison Bégon. Le marché également, notre amie Emeline de la Maison Bégon a été les voir. Elle a soumis le projet, ils étaient d'accord. Et Jardin de Cocagne nous a aussi donné des légumes. Avec tous ces légumes et puis la viande que les bouchers nous ont donnée. Nous avons utilisé pour faire le couscous et pour faire les différents plats. Et voilà, je pense que les gens un soulagement quand ils donnent quelque chose, quand ils aident, parce qu'on a tellement, au fond, on souffre tellement tous ces malheurs qu'il y a dans le monde, des enfants qui sont tués, et en regardant ces images qui nous touchent profondément, ce soir, nous disons qu'on n'est pas resté les bras croisés à regarder les images, qu'on a fait quelque
vous
chose.
Vous avez apporté votre petite pierre.
Voilà. Et ce qui est touchant également, c'est voir tous ces monde qui sont venus ce soir et les personnes, les bénévoles qui sont donnés de leur temps, ils sont de leur savoir-faire et elles sont très très contentes d'une action. Et c'est un grand, profond soulagement et apaisement et
c'est un beau dynamisme. Et moi j'en reviens, alors vous allez dire je fais une petite obsession sur le repas, mais j'en reviens sur ce buffet parce que ce que les auditeurs ne savent pas, c'est que c'est un buffet oriental, et que c'est délicieux et que c'est aussi l'occasion de découvrir, enfin de découvrir des mets que nous on ne connaît pas, enfin que moi personnellement, bon bien sûr le couscous, mais que je ne connais pas, et c'est aussi l'occasion vraiment de valoriser des savoir-faire, et ça moi je tiens à le souligner qu'il y a
oui, les gens, grande solidarité. Notamment moi je suis contente quand j'ai préparé, je suis contente de présenter un plat de mon pays qui est le boulgour, un pilaf avec du blé. Et j'ai fait du pides, de la viande pain avec de la viande hachée. Et c'est vrai que c'est pour les personnes, elles sont en valeureuse leur culture, leur savoir-faire, et c'est voilà, c'est ce qu'elles demandent aussi, d'être reconnues comme ça. Donc c'est une bonne façon de d'être intégrée aussi
Par le repas, par la gastronomie aussi. Et est-ce que vous savez si la gastronomie turque maghrébine, on va dire, est proche de la gastronomie syrienne? Vous avez les plats sont communs
Pour ce que je peux dire syrien, mes amis syriens, quand ils ont préparé le kubba, qu'ils appellent chez nous ishti köfte, les gens de proche de la Syrie, les villes, elles le font, je savais. Et puis elle me dit, le pide aussi, ça se fait chez eux, donc on a beaucoup de choses en commun.
Beaucoup de choses en commun.
C'est aussi l'occasion de rendre hommage à un pays qui est écrasé et à travers aussi sa gastronomie et ce qui fait que les gens se retrouvent.
Moi, je voulais rajouter qu'il fallait remercier certains pâtissiers, boulangers, blésois qui ont fourni les desserts et le pain.
Qu'on n'hésite pas à le faire et à les nommer,
Autobruc et la boulangerie Carrefour Médicis, donc c'est Gourdin Valéry, et le fournil blésois qui a fourni le pain, donc on les remercie, donc ils ont contribué
merci
sans hésitation. C'est vraiment merci à tous ceux ont permis à cette soirée d'exister, vraiment.
Merci aussi à tous les bénévoles qui sont là aujourd'hui. Elles nous servent, elles nous aident, même pour laver la vaisselle, pour servir, pour tout. Donc, c'est une grande soirée. Je remercie vraiment la Maison Bégon d'être attentif à ce projet-là et de nous avoir répondu rapidement. Et cette soirée, ça a été, je pense que c'est
une réussite.
Une réussite.
Et vous pensez que cet élan qui est né ce soir, il va perdurer? Vous y croyez?
Moi, je souhaite que ça continue, que ça soit même plus fort, puisque bon, c'est comme on disait tout à l'heure, ça permet aux cultures d'abord de s'interchoquer, de se croiser. On parle d'aimer, c'est vrai que. On ne connaît pas beaucoup la cuisine turque, mais la cuisine syrienne, elle est aussi... Et on n'a pas l'occasion, malheureusement, de se voir aussi. Si on pouvait créer plus d'occasions sans qu'il y ait de malheur.
Sans que ce soit des situations catastrophiques.
Voilà, ça serait encore mieux. Mais continuons déjà pour régler tous ces soucis qui existent et qui nous dérangent quand on a des moments de paix ou de repos.
Merci beaucoup à toutes les deux et bravo encore.
Merci à Radio Zef aussi de recueillir notre soirée et d'être parmi nous.
Merci. Jubeïdé, bonsoir. Vous faites partie de l'association Roumi, qui est donc co-organisatrice de cette soirée. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association?
Ok, donc Roumi est une association socioculturelle et éducative. Donc nous sommes une association en fait qui prône, on va dire entre guillemets, tout ce qui est dialogue interculturel, le vivre ensemble,
Voilà. Et vous êtes essentiellement des adhérents de la communauté turque ou l'association mêle des gens un petit peu toutes les cultures ?
De nationalité turque, d'accord. Malheureusement. Mais on est ouvert à tous. Hein,
d'accord. Tout. Et Rumi, ça signifie quoi ?
Rumi, en fait, c'était un homme, comment dire, dans l'histoire de la Turquie, en fait, qui a vécu et qui prenait lui aussi, en fait, tout ce qui était
le dialogue,
les valeurs universelles.
D'accord. Et alors, concrètement, vous agissez comment, quelles sont vos actions concrètes sur le terrain ?
Donc, nous, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, en fait, on organise tous les ans plusieurs, en fait, ce qu'on appelle des dîners du vivre ensemble. On peut les faire sous forme de dîner ou de cocktail, avec tout le temps un thème, en fait.
D'accord.
Donc, l'année dernière, en fait, avec les malheureux événements qui se sont passés en novembre, on a décidé, en fait, d'organiser un cocktail avec le thème de la solidarité. Et donc, voilà, donc on se retrouve pendant ce cocktail et en fait, on parle de ce qui se passe.
C'est l'occasion de discuter faire, voilà. Et de partager un buffet autour de la gastronomie, toujours comme point de rassemblement.
Oui, voilà, exactement.
D'accord. Nous, en France, c'est dans la culture française, le repas hyper central. Dans la culture turque aussi, le repas, la gastronomie, comme ça, c'est un moment de partage particulier ?
Oui, on donne beaucoup d'importance à ça, en fait. Le partage, faire connaître, en fait, toutes nos spécialités.
Et Dieu sait qu'elles sont bonnes. Et vous disiez que vous agissiez aussi auprès des enfants, en faisant de l'aide aux devoirs, je crois.
Oui, on fait de l'aide aux devoirs. Et en fait, on est aussi partenaire d'une association qui organise en fait un festival tous les ans. Donc, c'est l'association Études Plus qui est située... il y en a un peu partout en France. Mais d'accord. Nous, on est en partenariat avec l'association Études Plus qui est basée à Orléans. Mm-hmm. Donc, c'est le Festival des Cultures et des Langues donc, qui aura lieu le 5 mars prochain.
Où ça ? Ça aura lieu où ?
À Orléans.
À Orléans, d'accord.
On des conférences à Orléans.
D'accord. Et c'est... Qu'est-ce qui se passe pendant ce festival ?
Qu'est-ce qui se passe pendant ce festival ? Donc, en fait, c'est un... Il y a deux parties en fait dans ce festival. Donc il y a la partie concours où en fait les enfants chantent et récitent des poèmes et la partie spectacle.
D'accord.
Donc, en fait l'objectif ici c'est encore une fois de prôner le vivre ensemble parce qu'il y a des différents enfants de différentes cultures.
Toutes les cultures.
Voilà qui se rejoignent ce jour pour.
D'accord. Voilà. Donc là, auprès des enfants, et puis sinon, donc de l'aide aux devoirs très concrètement auprès des enfants des écoles du quartier.
Oui, voilà, exactement.
D'accord.
Du quartier Nord.
D'accord. Et vous me disiez que vous allez les chercher à l'école et que vous les emmenez
non,
chez.
Non, on ne va pas les chercher à l'école.
Non, quand même.
Actuellement, on n'a pas de local. On les reçoit soit à la maison, soit on se déplace
d'accord.
Chez eux pour les aider.
Très bien, merci. Si on veut vous contacter, vous avez un téléphone, un mail, un site internet
Oui, il y a vous pouvez aller voir sur internet.
Sur internet, donc Rumi, on tape Rumi, Rumi Blois. D'accord.
Oui, on a une page Facebook également.
D'accord, si on veut vous suivre ou vous découvrir. Et donc, pas forcément des personnes de la communauté turque, toute personne peut vous rejoindre si elle le souhaite.
La preuve, en fait, on organise avec la maison de Bégon des soirées. En fait, l'année dernière aussi, comme je vous ai dit, sur le thème de la solidarité, on s'était dit qu'on allait venir en aide aux personnes en Afrique. Et on a organisé une fois par mois environ des braderies, ce qu'on appelle des braderies, pour financer en fait des opérations de la cataracte. Et pour le 8 mars, journée de la femme, pardon, on avait organisé une soirée ici, une journée plutôt.
D'accord.
Et on avait en fait, encore une fois, on avait préparé des gâteaux.
Toujours à partir de la gastronomie, récupérer...
Et collecter de l'argent pour financer ces opérations.
Ces opérations de la cataracte en Afrique, d'où oui. ces opérations dont parlait tout à l'heure Dilek.
D'accord. Oui, voilà, exactement.
Et vous, à titre personnel, Zubeïd, qu'est-ce qui vous a motivé à venir ce soir ?
En fait, comme l'a dit mon ami Dilek, c'est ma sœur qui a eu l'idée, en fait. Bon, on voit tous ce qui se passe, donc, que ce soit sur Internet ou les journaux. Et donc, on ne pouvait pas rester comme ça. Et on s'est dit, en fait, de contacter la maison de Bégon, qui est une grande...
structure centrale.
Voilà, exactement. Ouais. Pour essayer de...
C'est un peu le point de rassemblement de toutes les associations, de toutes les associations dont vous faites partie.
Oui, voilà. Et donc, on s'est regroupés ici et on a décidé d'organiser au début, on voulait organiser un repas. Mais on s'est dit, en fait, qu'il n'y avait pas assez de place ici. Et c'est pour ça qu'on a qu'on a organisé un buffet.
Un buffet et concert. Et donc vous, vous êtes bénévole ce soir. Je vous ai vu tenir la caisse tout à l'heure, il me semble.
Oui, je suis à la billetterie.
D'accord. Eh bien, bravo pour votre engagement et merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Monsieur Robillard, bonsoir. Donc, je rappelle que vous êtes député de la première circonscription de Loire-et-Cher. Vous avez été présidente d'Amnesty International France de 1998 à 2002. Et puis vous êtes avocat au barreau de Blois. J'ai oublié que vous êtes aussi conseiller municipal de la ville de Blois, donc pour le Parti Socialiste. Alors, moi j'avais envie de vous poser cette question en tant qu'homme politique. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion de la crise syrienne ? Au niveau français, au niveau européen.
Écoutez, au niveau, elle est plus gérée au niveau français qu'au niveau européen, soyons clairs. Je pense que c'est une des moins mauvaises gestions, même si elle ne me satisfait pas, que je connaisse dans le monde, puisque de façon, enfin, au moins des principes ont été affirmés de façon très claire. Un soutien très clair à l'opposition syrienne, à l'opposition dite démocratique, la qualification de Bachar el-Assad pour ce qu'il est, c'est-à-dire un boucher, un dictateur, mais plus qu'un dictateur, un boucher, et le fait qu'il participait du problème et pas de la solution, et qu'il ne devait donc pas participer de la solution. Après, on sait bien que la position française s'est infléchie à partir du moment où Daesh est rentré en ligne, et on peut dire que, alors certains considèrent que c'est la Syrie qui l'aurait créée. Personnellement, je ne le pense pas, mais peu importe. En tout cas, la Syrie en a joué. Quand ce que je dis, la Syrie, c'est pas la Syrie. Bachar en a joué. En a joué, et compte tenu de la dimension de ce mouvement, de son importance, au Maghreb et au Machrek surtout, et puis du terrorisme en France, ça a infléchi de façon très significative la position française qui s'est un peu accommodée avec la situation actuelle. Bon. Mm-hmm. Mais sans renoncer aux principes qui avaient été antérieurement énoncés. Ceci étant, ça ne me satisfait pas parce que nous avons une position qui se traduit par de l'impuissance.
Voilà, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait
sans
maintenant ?
Sans prise sur ce qui se passe aujourd'hui en Syrie et qui est dominé par la Russie, par l'Iran, qui est très discret d'ailleurs, l'Iran, mm-hmm. Sur le théâtre international. Mais c'est la Russie qui met ses forces, elles sont beaucoup moins discrètes. Le Hezbollah est très présent sur le sol syrien. Et puis malheureusement, on voit bien que c'est un enjeu, à mon avis, des mois qui vont venir, que certains en France voudraient qu'on change de position et qu'on appuie carrément M. Poutine, y compris dans ce qu'il fait en Syrie, ce qui me paraît extrêmement dangereux. Après, je crois qu'à terme, les Russes se mordront les doigts de leur intervention, qui semble qu'ils n'aient pas tiré les conséquences ou les leçons de leur intervention en Afghanistan. Dans un premier temps, en Afghanistan, l'armée russe, l'armée soviétique, on parlait à l'époque, mais c'était fondamentalement l'armée russe, mais bon, à l'époque, ça s'appelait l'armée rouge, était surpuissante par rapport aux forces en présence. Elle a quand même dû partir.
Ouais.
Et ça s'est enlisé. Je pense que les Russes n'ont pas compris ce qui s'était passé en Irak avec une armée américaine surpuissante qui a abattu Saddam Hussein sans coup férir et qui a dû partir sans forcément être battue, mais en laissant une situation qui objectivement était pire que quand elle est arrivée. Donc l'histoire est très très loin d'être finie, et malheureusement c'est une histoire qui est pour le peuple syrien sinistre, parce que c'est le peuple syrien qui est la principale victime de positions qui se prennent au-dessus de lui et manifestement pas dans son intérêt.
Tout à fait, parce qu'on a vu tout à l'heure Monsieur Chami, le docteur Chami qui intervient là-bas, qui a été très très ému au micro, et je pense qu'il l'était aussi dans la salle quand il a témoigné. On est face à un constat d'échec, on voit un peuple écrasé sous les bombes, on voit une frontière turque qui est fermée, donc des ONG qui ne peuvent plus entrer, et on est spectateur, et on attend quoi ? Et on voit le régime de Bachar el-Assad qui gagne, qui regagne les villes, qui dit que c'est le prix à payer. C'est difficile en 2017 aujourd'hui de...
Oui, c'est en ce sens-là que l'humanité recule en Syrie. C'est pas simplement Bachar el-Assad qui avance, soyons clairs, grâce à la Russie et à l'Iran. Mm-hmm. Il faut dire où sont les responsabilités. Mais c'est avec les moyens qui sont employés, qui sont totalement indifférents au droit de la guerre, c'est-à-dire que ce sont des crimes de guerre. Il va falloir pouvoir le dire. Bon, est-ce que ce sont aussi des crimes contre l'humanité ? Oui, on peut le penser.
Compte tenu.
Alors attention, vous avez rappelé que j'avais été président d'Amnesty, mais Amnesty ne se situe pas sur l'échiquier politique, et donc je n'engage surtout pas Amnesty. Moi, je ne suis plus un de ses dirigeants, c'est terminé. Je suis toujours membre, mais je ne suis pas un de ses dirigeants, je ne l'engage pas. Mais évidemment, ce que les combats que j'ai menés dans cette organisation, j'y pense tous les jours, et qu'on est bien sur le terrain du crime contre l'humanité, me semble-t-il, puisqu'on s'attaque délibérément à des populations civiles, que c'est le principal critère. Et donc on peut espérer qu'un jour ce sera en justice, mais ce sera trop tard, et actuellement la justice pénale internationale recule, elle aussi, hein, puisque la Cour pénale internationale qui siège à La Haye, des pays, pas des pays négligeables, essaie de la discréditer en la quittant petit à petit. Bon, donc moi, par rapport à un combat, moi je suis malheureusement plus tout jeune, j'ai vu très longtemps des combats des droits de l'homme qui progressaient, et aujourd'hui on est dans une situation où objectivement on régresse.
On
régresse depuis 2001 fondamentalement, avec les attentats.
Le terrorisme.
Où
on a une cause, une explication qui fait qu'on n'agit plus parce que la priorité est passée.
On a vu que George William Bush a répondu au terrorisme par le rétablissement discret, mais quand même, de la torture
par
les États-Unis, donc par la barbarie. Et que dans la naissance de Daesh, on ne peut pas penser que les tortures qui ont été pratiquées en Irak, à la prison d'Abu Ghraib, les photographies de soldats américains qui pratiquaient des tortures, des actes à caractère sexuel sur des détenus, que tout ça a joué et que quand on lâche la barbarie, malheureusement, elle se répand. Et cette barbarie que j'avais vue régresser année après année, je pense qu'aujourd'hui elle est en progression. Je ne dis pas que c'est inéluctable, je ne dis pas que c'est irrésistible, j'avoue que je... Autant dans les années 80-90, on avait l'impression de faire des progrès fantastiques, autant on est aujourd'hui sur la défensive, sur la consolidation des acquis, sur se dire que quand on négocie un nouveau traité, il faut faire attention à ne pas perdre des points et des positions par rapport à celles qui avaient été acquises, et sur une diplomatie française qui, un temps, endossait l'étendard des droits de l'homme et qui, depuis fort longtemps, ne mène des discussions, quand elle les mène, qu'en catimini sur ce sujet-là.
Est-ce que justement c'est un petit peu patrice de constater que vous parlez de la Cour pénale internationale, on voit les Nations Unies qui font des discours mais qui n'avancent pas, on a l'impression, spectateur, citoyen du théâtre du monde, où on regarde que finalement ceux qui pourraient faire bouger les lignes ne le font pas pour peut-être des intérêts supérieurs. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, est-ce que la question des droits de l'homme est devenue secondaire?
Vous savez, les Nations Unies, elles sont paralysées au niveau de l'organe qui est en charge du maintien de la paix dans le monde, le Conseil de sécurité.
Bien sûr.
Par les vétos.
Tout à fait.
Le fait que la Russie soit partie prenante au conflit et qu'elle ait un droit de veto explique pour l'essentiel, l'impuissance des Nations Unies. Donc, parce qu'après les autres organes, ils n'ont pas le droit à la force et ils ne peuvent pas autoriser le recours à la force. Et qu'après, on est dans ce que peut la diplomatie. La diplomatie, faut pas. C'est très précieux, la diplomatie. Ça retarde des guerres et vous savez qu'une guerre retardée est souvent une guerre qui n'a pas lieu. Donc il ne faut pas non plus jeter le système au motif qu'il a échoué. En ce qui concerne la Syrie, il a échoué, soyons clairs, il échoue, il continue d'échouer en ce qui concerne la Syrie, tout en restant un recours, tout en restant un espace de dialogue, parce qu'il faut que les dialogues se poursuivent si on veut trouver... Parce que malheureusement, il faut pouvoir discuter, y compris parfois avec le boucher.
Ça veut dire discuter avec Bachar el-Assad pour essayer de trouver une sortie de crise? Est-ce que vous pensez que c'est possible?
Non, je n'attends strictement rien de M. Bachar el-Assad. Et M. Bachar el-Assad, objectivement, ne serait rien sans les Iraniens et les Russes. Par conséquent, je pense que si une discussion doit avoir lieu, c'est avec les Iraniens et les Russes, et que eux-mêmes pourraient lâcher M. el-Assad s'ils le pensent utile à leurs intérêts. Et qu'il n'est que ça. Il n'est que le paravent qui leur permet de donner un semblant de l'égalité internationale, à leur intervention. Donc, on sait bien que le principal acteur du conflit aujourd'hui, que l'armée syrienne ne serait rien s'il n'y avait pas les avions russes, voilà. Soyons clairs. Et que l'armée syrienne, sans le Hezbollah et sans des forces iraniennes, ne serait pas grand-chose non plus. Donc voilà, les forces, elles sont identifiées. L'Iran est un pays avec lequel il faut parler. La Russie est un pays avec lequel on doit parler. Ce sont des acteurs qui sont incontournables. Mais ça ne veut pas dire que quand M. Poutine laisse commettre ou commet des crimes contre l'humanité, il ne faut pas le dire. Et moi, je rappelle que sur la Tchétchénie, ce qu'on appelait les camps de filtration, et on a évoqué le spectre de ces camps en ce qui concerne Alep, même s'ils n'ont pas été établis. Mais c'était des camps de torture. Donc qu'on avait très clairement sur la Tchétchénie des crimes contre l'humanité extrêmement caractérisés sous la responsabilité de M. Poutine. C'était celui qui avait dit, en parlant des Tchétchènes, j'irai buter les terroristes jusqu'en les chiottes, pour reprendre son expression. Donc c'est le même Poutine qui est au pouvoir aujourd'hui. Donc disons-le.
Mais...
Vous savez, je reconnais l'impuissance, l'impuissance de mon pays, et je m'en désole. Mais je me dis que la position de principe, quand elle est acquise, et que les mots
et la dénonciation et la qualification, nommer les choses. Le fait de nommer les choses. Je crois que c'est Pliouch qui disait ça, c'est un dissident, ça date d'une autre époque, mais qui disait vous ne savez pas le bien que vous nous faites en nommant les choses. Et donc en qualifiant juridiquement, ça a une puissance qui peut être dévastatrice. On ne voit pas tout de suite, on se dit que par rapport aux divisions blindées et aux avions hyper modernes qui sont utilisés, c'est impuissant. Je pense que ça peut produire des effets. Mm. Pas tout de suite, pas immédiatement, mais qu'il faut dire les choses et peut-être de cette façon-là, avec cette raideur-là. Ce qui n'empêche pas de discuter. Moi, je me souviens de ce qui s'est passé dans les accords sur l'ex-Yougoslavie, hein, sur le Kosovo. C'est parce qu'il y avait une justice pénale internationale que Karadzic n'était pas à la table des négociations des accords de Dayton. Et le fait qu'il n'y soit pas, à mon avis, les a permis. Donc, c'est rétrospectif, mais hein, ce sont des... Voilà, ce sont des acteurs. Il y avait les Serbes, hein, il y avait Milosevic qui était là. Hein, qui lui-même, après, il est mort en prison à La Haye parce qu'il était accusé par le tribunal pénal international ou devant le tribunal pénal international. Donc je dis que c'est pas... Les choses... il y a quelques années, on se serait dit... Mais, avant les accords de Dayton, mais ça va jamais finir. Je rappelle, moi, le siège de Sarajevo, vous savez, le courage qu'avait eu Mitterrand en allant y poser son avion, et le geste symbolique et déclencheur que ça avait pu être. Bon, par contre, ça, c'est... Qu'est-ce que c'est un président français qui pose son avion? Bon, c'était François Mitterrand, c'était pas François Hollande, mais qu'est-ce que c'est? Donc voilà, les symboles dans l'histoire ont du sens et peuvent faire avancer.
D'accord. Si juste... Alors, on se resitue là ce soir. Votre implication ce soir, est-ce que c'était votre regard sur cette soirée? Qu'est-ce que vous en pensez en tant que... Alors, je ne sais pas si c'est en tant que député, en tant que conseiller municipal, en tant que citoyen, tout simplement, de cet élan de générosité.
C'est les trois. D'abord, moi, je... Vous savez, on fait de la politique parce qu'on est généreux, y compris quand on... Moi, c'est une forme de générosité de faire de la politique, de s'engager sur les affaires publiques et de dire tout haut ce qu'on pense tout bas, parce que c'est pas si simple à faire. Hein. Donc,
et tant que c'est réel, tant qu'on dit réellement tout haut ce qu'on pense tout bas et...
Oui, mais je ne suis pas dans le monde des bisounours. Je sais qu'on ne fait pas ce qu'on veut, je sais qu'il y a des rapports de force, qu'il y a des logiques d'intérêt. Il n'empêche que je pense qu'il faut de la générosité pour faire de la politique. Enfin, peut-être pas chez tout le monde, mais y compris dans les différents camps.
Croire.
Bon, ça c'est une première. Bon, donc moi je suis sensible à la générosité. Et je me dis que la fraternité, elle paye toujours. Mm. D'abord parce qu'en soi, elle fait du bien. Donc c'est pas son objectif, mais elle se justifie par elle-même. Et je pense qu'en Syrie, le peuple syrien, s'il sait qu'il y a ici, d'autres villes de France, par des initiatives, par des organisations qui ne sont pas très célèbres, pas très connues. Des initiatives de solidarité, ça fait du bien.
Là, on a un réel mouvement citoyen.
Donc, il y a un vrai mouvement citoyen. Et je pense que c'est constructeur d'espoir. Et l'espoir est constructeur d'avenir. Le désespoir, non.
Eh bien, on va conclure là-dessus, alors. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bon, bah Alice, c'est la fin de la soirée.
On entend encore un petit peu les Sharpers quand même. Ils sont ils sont encore là, je pense, pour finir cette soirée en beauté.
Je pense.
Puis encore un peu de monde au bar, et encore des gens qui traînent à droite à gauche. Buffet s'est réduit comme peau de chagrin, c'est
Exactement, c'est triste, mais enfin, on en a bien profité quand même. Hein. Tout le monde en a bien profité.
C'était bon. Encore une fois, une mention spéciale aux cuisinières, parce que je pense que c'est des cuisinières.
C'est une histoire de femmes.
Si les cuisiniers se cachent, on veut bien les rencontrer.
Voilà, exactement, ouais, tout à fait. Et vraiment, moi, je tiens d'abord à remercier, mais sincèrement du fond du cœur, tous les gens qui sont venus parler au micro, parce qu'ils ont parlé vraiment. C'est un sujet difficile.
Avec sincérité.
Avec beaucoup de sincérité, beaucoup de cœur, surtout. Et je pense qu'on est tous très touchés par ce qui se passe sans pouvoir faire grand-chose.
Tout à fait.
Et malgré tout, voilà, on essaye d'en discuter. C'est tout ce qu'on... Enfin, c'est malheureusement tout ce qu'on peut faire. Il y en a d'autres, effectivement, comme le docteur Chamy, que vous avez pu entendre.
Qui nous a beaucoup ému.
Qui nous a vraiment absolument bouleversés. Je pense qu'on ne ressort pas indemne d'une expérience comme celle-ci. Voilà, donc je sais pas toi, mais moi j'en retire évidemment des, enfin comme d'habitude quoi, ce genre d'événement, beaucoup de richesses, beaucoup de, j'ai appris beaucoup de choses.
Moi je suis sincèrement chamboulée par la générosité de toutes ces femmes, parce que je crois que c'est, comme tu disais, une histoire de femmes qui se sont bougées, qui ont bougé ciel et terre pour organiser cette soirée, et on a des leçons à tirer.
Ouais,
je pense, moi je terminerai là-dessus.
Ouais, c'est vrai, on peut leur tirer notre chapeau. Et vraiment, merci beaucoup à la maison de Bégon qui fait un travail formidable.
Encore une fois.
Encore une fois, voilà.
Ça montre la vocation de centre socio-culturel, là, le terme est vraiment, prend tout son sens.
Exactement. Ils ont répondu du tac au tac, ils n'ont pas réfléchi, tout le monde s'est mobilisé. Enfin, il y a vraiment eu une énergie quand même. Ouais,
tout à fait. Bravo aux salariés qui, ce soir, qui ont tous répondu présents bénévolement.
Bénévolement, ouais.
C'est beau, c'est une belle énergie.
Ouais, exactement. Donc, je sais pas. Nous, effectivement, comme je disais tout à l'heure, le sujet est grave. On entend les sharpeurs derrière.
Tout à fait, qui met une petite note de rock. Folk rock, je ne sais pas comment, country rock.
Du rock, du rock.
C'est ça. On a pure, quitté quoi, les pure airs pure, orientales, là, mais... Mais voilà, Christophe doit être absolument heureux devant la scène.
Exactement.
Mention spéciale.
On va recommencer.
Peut-être qu'on se retrouvera
Bientôt.
Autour d'un concept, on va savoir.
Bon, chères auditrices et auditeurs de Studio Zef, on vous embrasse très fort et puis à très bientôt.
À bientôt et salut. Bonne soirée.
Bonne soirée.
The rhythm of the universe. Listen to the universe pulsating.